Lecture par tous.
C'est un dialogue.
L'émission qui vous parle des livres.
C'est une gymnastique intellectuelle extrêmement bénéfique pour le cerveau.
Des métiers du livre, des lecteurs.
Les jeunes n'ont pas perdu le goût de la lecture.
Et de leur lecture. Chers auditeurs et lecteurs, bien le bonjour, si je puis dire. Et voilà, une nouvelle émission de Lecture par tous. Ce sera un bazar. Vous savez, on fait périodiquement ce qu'on appelle nos bazars. Il y a eu un bazar de rentrée. Là, c'est le bazar, on va dire bazar d'automne. Un bazar d'automne qui arrive un petit peu avant les fêtes. Donc peut-être vous aurez des idées de cadeaux littéraires pour les fêtes. Donc je suis au studio avec deux collecteurs. Un collecteur, une collectrice. Ou faudrait dire dans l'autre sens. Hein, c'est... Française, français, là c'est collectrice, collecteur. La collectrice c'est Françoise Jarousse, bonjour Françoise.
Bonjour Marc, bonjour François, bonjour à tous.
Et puis le collecteur c'est François Chabot.
Bonjour Marc.
Voilà, et Marc Sorvin, donc au micro en ce moment, et puis en cabine, notre fidèle ronge-maille veille à ce que tout soit enregistré correctement. Alors, littérature étrangère, oui, c'est vrai que dans cette émission, on aime bien la littérature étrangère, donc traduite. Donc, on va parler un peu de poésie italienne, hein, d'un grand poète italien. Et puis, bah, comme c'est de la traduction, on parlera aussi du travail des traducteurs, à travers des traducteurs qui ont témoigné de leur travail. Et puis, on ira aussi du côté des pays baltes. Et puis, on ira... admirer, si je puis dire, les Noirs de Soulages, hein, puisque vous savez que le musée Fabre enrichit sa collection Soulages et réaménage un petit peu. Et puis, si on a le temps, on ira même du côté de la Chine, si on a le temps. Si on a le temps. Alors, nous commençons. François, tu veux nous parler d'un classique de l'art italien, de l'art poétique italien. Leopardi.
Oui, Leopardi, c'est, on pourrait dire, le poète national italien, si c'est justifié au début du 19e siècle. Mais ce que je veux conseiller comme cadeau à offrir pour ces fêtes à tous les gens qui aiment la littérature et sensibles à la culture italienne, c'est l'inclassable Zibaldone de Leopardi, qui a été traduit chez Alia, qui est publié là, donc... en 19 nouvelles versions. Et c'est une somme remarquable. C'est inclassable, Zibaldone, et ça veut dire sabayon. C'est une recette de miscellanée, de pensée, de recherche, de subtilité littéraire, artistique, de pensée. En italien, c'est Zibaldone del pensieri. Et ça a été publié de façon posthume à la fin du 19e siècle en 6 cahiers. Les gens ont beaucoup travaillé dessus parce qu'en fait, c'est une des œuvres clés de la modernité aussi.
D'accord. Alors, chez un éditeur, tu dis,
chez Alia.
C'est Alia, hein, qui est un éditeur.
Un très bon éditeur.
Qu'on ne connaît pas forcément, on ne fait pas très attention. Il n'y a pas de.
Alors, il y a des petits.
De titres, mais il fait un remarquable travail. Depuis des années.
De publication, de renouveler des titres qui étaient épuisés et disparus dans l'édition. Il a même, l'édition Alia ont aussi publié la correspondance de Leopardi, notamment Recanati, tout ça qui est passionnant, mais qui n'est pas aussi enthousiasmant que Zibaldone, qui est vraiment remarquable. Alors, on peut se le procurer en un volume en italien, mais c'est bien aussi d'avoir l'édition française. Mmh. Parce que c'est un travail remarquable.
Voilà. Alors, ça, c'est un travail de traduction. C'est une équipe de traducteurs ou c'est un seul traducteur? Parce que là, c'est un volume. C'est vraiment un gros volume. Hein. Nos auditeurs ne le voient pas. Mais
il y a plusieurs milliers de pages.
On a 2000 et quelques pages. Donc, il y a de quoi s'occuper pendant les longues soirées d'hiver. Hein, alors, c'est une équipe ou c'est une seule personne?
C'est Bertrand Schneifer qui a traduit de l'italien, présenté et annoté.
Donc, on imagine pour un traducteur, c'est peut-être pas le travail d'une vie, mais en tout cas, c'est le travail de quelques années.
De toute façon, il faut se plonger dedans, dans toute l'œuvre aussi, parce que ça fait référence aussi à son actualité littéraire et tout ça, donc son observation quotidienne, ses essais qu'il ne cesse d'écrire, qu'il revendique comme sa propre littérature, c'est de faire des essais essentiellement plutôt qu'une opéra, qu'une œuvre littéraire. Et en fait, il dit même dans Un ami que l'éditeur veut marquer opéra et lui... Il préfère rester dans l'essai, mais c'est
oui, une opéra, donc en italien, voilà. Qui signifie œuvre, hein, tout simplement. Voilà. C'est pas la musique, la oui. Référence à l'opéra musical. Hein,
non, bien sûr, ça fait.
C'est œuvre, tout simplement.
C'est l'œuvre, exactement.
Hein. Peut-être pour nos auditeurs qui ne connaissent pas, qu'est-ce qu'on peut dire de Leopardi?
On peut dire sa passion de sa vocation à cause de sa maladie aussi, parce qu'il était il a toujours traîné une maladie terrible et il a passé toute son enfance, son adolescence à étudier le grec, le latin, les sciences, tout, dans la bibliothèque de son père à Canati. Et les enfants étaient éduqués de façon merveilleuse, avec c'était devant des savants, des érudits. Mais il a eu besoin aussi d'essayer d'avoir une vie, vraiment une vie charnelle, mortelle aussi. Et pas uniquement d'études, une vie d'études. Et c'est pour ça qu'il a fugué, mais ça a échoué. Mais après, finalement, il a eu la possibilité d'aller vers Napoli et d'autres endroits d'Italie pour faire connaissance avec le monde un peu aussi, pas seulement à travers les livres. Et puis il y a cet amour aussi pour cette jeune femme qui est décédée. Vraiment une tragédie pour lui parce qu'il la voyait depuis le domaine familial, il l'observait par la fenêtre. Mais voilà, en fait, c'est une grande tragédie, Leopardi, mais avec une générosité formidable, avec Alitalia, c'est le premier des canti de Leopardi, c'est un peu, oui, l'unité italienne à lui tout seul.
D'accord, oui, on est en pleine période de la construction de l'unité italienne.
Hein. Voilà, il était lié à Alfieri aussi, qui est bien connu à Montpellier pour avoir tous ses manuscrits qui étaient à la bibliothèque de la faculté de médecine, mais qui est maintenant à la médiathèque de Misola.
D'accord. Donc on est il est contemporain, quand on dit unité italienne, il est à peu près contemporain avant. De Verdi, oui, du côté de la musique.
Oui, tout à fait. Oui. Mais, et puis bon. C'est un Italien qui n'est pas délectal. Donc c'est vraiment à la fois un vœu de créer une Italie avec une langue aussi.
Oui, avec une langue unifiée. Parce que
ça, parce
l'Italie, encore aujourd'hui, l'Italie est un pays de dialectes. Hein. On oublie parfois. Et ça pose d'ailleurs des problèmes aux traducteurs, parfois, qui traduisent certains romans italiens, où tout d'un coup, il y a des dialectes. Comment on va restituer entre l'italien, j'allais dire officiel, hein, qui vient plutôt de Lombardie, de Toscane, oui. Et puis le sicilien, et puis l'émilien,
voilà. Le romagnol, il y a plein de langues.
Qui sont quand même assez différents.
Voilà,
alors on recommande donc un beau cadeau à faire. Faut pas avoir peur des gros volumes. Alors aller à lire le soir au lit, c'est pas terrible.
Il faut le lire
parce qu'on est un peu écrasé par le volume.
Avec un objet qui permet de tenir le livre, c'est l'idéal.
Voilà, hein, donc... Mais oui, une somme, on va dire, hein,
oui.
Une somme pour les amateurs de culture italienne et de romantisme italien, voilà. Oui. Leopardi, donc le titre Zibaldone,
et
c'est
Alia.
Publié aux éditions Alia. Merci François.
Oui.
Tu as d'autres choses dont tu nous parleras tout à l'heure. Alors voilà, nous sommes dans de la littérature traduite. On l'évoquait, hein, la difficulté, notamment avec l'italien et ses dialectes. Il y a beaucoup d'autres langues où il y a comme ça des variantes. Et c'est comment on restitue ces variantes-là dans le français ? Pas forcément simple. Et le travail de traducteur est un travail un peu obscur, un peu discret. Alors maintenant, les éditeurs, quand même, se sont... disciplinés, si je puis dire, et reconnaissent leur travail, et souvent ils sont même en couverture, hein, en petit, mais quand même en couverture, alors que si on prend des anciennes éditions, le traducteur n'est même pas mentionné. Hein. Alors, Donc, Françoise, tu t'es intéressée à deux témoignages, si je puis dire, sur la traduction, publiée par un éditeur que nous aimons bien. C'est important de parler des éditeurs qui font un beau travail. Là, c'est la Contre-Allée.
Oui. Alors, il faut que je vous raconte mon cheminement, pourquoi j'en suis venue à lire ces deux livres. C'est parti du livre, d'un livre que j'ai lu au mois de septembre, dont j'ai parlé dans notre blog, hein, la version libre des collecteurs, qui est « Par les routes » de Sylvain Prudhomme. Et il se trouve que dans ce livre, qui est une, entre parenthèses, une très jolie histoire, l'un des personnages est traductrice. Et elle traduit de l'italien.
Et elle traduit... Justement, alors elle n'a pas fait exprès.
Voilà,
hein.
Oui, c'est... Elle traduit Marco Lodoli. Et elle, Sylvain Prudhomme a de très jolis mots sur la traduction que je vais vous lire parce que c'est de là qu'est partie mon envie de lire sur la traduction. Ce personnage dit « De toute façon, avec les mots, c'est toujours pareil. Le sens glisse, dérape par rapport à l'intention qu'on avait. Il dérape en italien comme en français. Les mots toujours débordent. C'est le jeu. Ce qu'il faut simplement, c'est choisir entre les glissades. Sentir quelle glissade française sera la plus fidèle à la glissade italienne. » Et alors, il se trouve que peu de temps après, la Contre-Allée a initié une... je ne sais pas comment dire, ce n'est pas une édition, mais une section de ce qu'il publie sur la traduction, qui s'appelle Contrebande.
Une collection, tout
voilà,
simplement.
Voilà, une collection.
De...
Voilà, je ne trouvais pas le mot. Et en fait, ça m'a fait penser à ce que disait Sylvain Prudhomme. Et le fait que cette collection s'appelle Contrebande, c'est comme si le traducteur était un petit peu... Contrebandier
de la littérature.
Voilà. Une sorte, en fait, de passeur.
Oui, ben, contrebandier, j'allais dire, oui, c'est, voilà. Il passe des frontières, parfois clandestinement et dans l'anonymat.
Voilà. Et la Contre-Allée, donc, a publié deux textes de deux traductrices. L'une qui est Diane Meur, son livre s'appelle « Entre les rives ». Diane Meur est également romancière.
Oui, elle avait... publié quelque chose sur la famille Mendelssohn.
Voilà. Effectivement.
J'étais chez comment ça s'appelle, Sabine Vespisseur, si j'ai bonne mémoire.
Voilà, c'est ça. C'est son éditeur. Et l'autre est un petit livre de Corinna Jepner, qui elle est seulement traductrice et qui s'appelle Traduire ou perdre pied. Donc je me suis précipitée sur ces deux livres qui sont en plus, comme d'habitude à la Contre-Allée, de très jolis livres, avec une belle couverture. Et
oui, ce sont des objets toujours soignés, les livres de la Contre-Allée.
Oui. Et alors, il se trouve que... Alors, toutes deux sont des universitaires. L'une a fait Normale Sup, l'autre une thèse importante. Enfin, ce sont des femmes sérieuses. Et ce que dit Diane Meur, qui fait un petit peu écho à ce que disait Sylvain Prudhomme, c'est que écrire, c'est composer. Traduire, c'est interpréter la musique composée par un autre. Et alors, si ces deux livres se font écho, c'est que Corinna Jepner, elle dit qu'elle a commencé à traduire au moment où elle a abandonné la musique. Donc, il m'a semblé qu'il y avait une espèce de correspondance entre ce qu'elle disait. Alors, Diane Meur, ce qu'elle dit de la traduction, c'est plus théorique. Elle parle de son expérience, mais c'est plus théorique que ce que dit Corinna Jepner. Diane Meur, elle a besoin de lire d'abord l'œuvre qu'elle va traduire, avant de commencer à la traduire. Elle a besoin, pas toujours, mais souvent, de rencontrer l'écrivain ou l'écrivaine qu'elle va traduire. Alors que Corinna Jepner, elle ne lit pas avant le livre qu'elle traduit. Elle se jette un petit peu comme on plonge dans le livre et elle le découvre petit à petit. Donc, ce
en cours de traduction.
Voilà, hein, ce sont deux techniques différentes. Et puis, j'ai eu l'impression que Diane Meur, elle reste plus, c'est plus intellectuel ce qu'elle fait, elle reste plus extérieure. Alors que pour Corinna Jepner, cela fait traduire, ça fait partie de son parcours personnel. Elle a eu besoin de traduire pour combler un vide. Elle raconte en même temps qu'elle explique comment elle traduit. Elle raconte son histoire, l'histoire de sa famille, un grand-père allemand pendant avant la Deuxième Guerre mondiale, juste au moment de la Deuxième Guerre mondiale, et un grand-père paternel allemand et des grands-parents polonais. Hein. Et ce grand-père allemand a disparu. Hein. Il a été sur le front de l'Est, hein, à Stalingrad, et on a su qu'il était mort que longtemps après. Et elle explique qu'elle traduit pour, en allemand, hein, de l'allemand au français, pour combler un vide. Donc c'est un parcours personnel assez profond qu'elle fait. Et elle le dit de façon très, très jolie. Enfin, c'est très émouvant, son témoignage. Hein. Alors, Diane Meur, c'est très intéressant parce qu'elle explique bien la technique de la traduction. Elle parle des possibilités actuelles d'une traduction mécanique, hein, par une machine. Et ça n'est... En disant que ça n'est pas possible, hein, même si, quelquefois... Enfin, avec Marc, on a souvent, hein, parlé des problèmes de traduction. Et
ben, c'est vrai que certains logiciels de traduction, il y a de progrès, d'indéniables progrès qui ont été faits. Hein, je pense à quelque chose qui s'appelle DeepL, hein, qui fait un travail... C'est pas mal ce qui sort, mais faut le retravailler derrière. C'est une aide. Oui. Ça peut être une aide, mais ça ne peut pas faire tout seul la traduction. Ça, c'est exclu.
Oui. Alors, en fait, dans ces deux livres, pour Diane Meur, on a l'impression que, bon, elle connaît très bien la technique de traduction, elle connaît très bien les auteurs, elle les traduit du mieux qu'elle peut. Pour Corinna Jepner, c'est autre chose, hein, c'est une aventure personnelle. On a l'impression que c'est quelque chose de beaucoup plus profond.
Ben, on a l'impression, dans ce que tu dis, qu'il y en a une qui traduit un auteur, l'autre qui traduit des textes. Un petit peu.
Oui, effectivement.
Voilà. Mais c'est ce qui est, je trouve ça tout à fait intéressant parce que ça nous dit bien, voilà, ce métier de traducteur, non seulement ça le fait sortir un petit peu de l'ombre, ces deux livres, cette collection, et puis on entend qu'il y a différentes façons de traduire et peut-être qu'il n'y a pas une bonne façon. Ça va dépendre des livres, ça va dépendre des œuvres, ça va dépendre du type de littérature, oui. Et peut-être qu'une méthode est plus appropriée. Avec un auteur ou avec un autre, avec une œuvre ou avec une autre.
Oui, en tout cas, enfin, chez l'une comme chez l'autre, il y a un immense respect du texte qu'elles vont traduire.
Ce qui est quand même une chose élémentaire a priori pour un traducteur. Alors, merci. Donc, à la contre-allée, hein, ces deux titres, vous trouverez tous les détails sur le site, ne vous inquiétez pas. Traduction, on va rester du côté de la traduction. Moi, j'avais envie de vous parler un petit peu d'un auteur assez extraordinaire, un Estonien, Andrus Kivirak, que François apprécie aussi
énormément,
hautement. Hein. Un auteur qui est illustre en Estonie, je crois qu'il y a une quarantaine de titres qui ont été publiés, ou quelque chose comme ça. Nous n'en avons que trois en France, publiés par un éditeur qui fait aussi un très beau travail, hein, le Tripode. Alors, le premier qu'on a vu apparaître est en fait le plus récent des trois. Le premier qu'on a vu apparaître, c'était « L'homme qui savait la langue des serpents ». Et puis, on a remonté un peu l'œuvre, le cours de l'œuvre, parce que plus ça avançait, le plus récent, le plus ancien, en fait. On a ensuite les « Groseilles de novembre », et puis le plus ancien, un de ses tout premiers,
je crois.
C'est même le premier, hein, « Le papillon ». Alors, de quoi il s'agit Le monde d'Andrus Kivirak, quand vous vous y plongez, renoncez à vos repères habituels. Vous allez rentrer dans un monde fantastique, absurde en même temps, cruel aussi, un monde qui est du côté des contes et des légendes, sans doute, en grande partie, même lorsqu'il est bien ancré dans le réel. Bah, par exemple, Le Papillon, son premier roman, est tout à fait ancré dans le réel, parce qu'il nous parle de la... tout ça se passe dans le théâtre Estonia, qui est le premier théâtre qui va être consacré à la culture estonienne. Alors, l'histoire de l'Estonie, pour si vous ne situez pas, un coup c'est les Russes, un coup c'est les Allemands, puis voilà, ils ont toujours été occupés par les uns ou par les autres, hein, jusqu'à une indépendance relativement récente, même très récente. Et puis bah, Le Papillon, c'est une des comédiennes du théâtre qui va éclairer la vision de ce théâtre. Alors, c'est une recherche universitaire qu'avait fait sur Kivirak sur l'histoire du théâtre en Estonie. Et puis, dans cette recherche, au bout d'un moment, il s'est dit c'est tellement extraordinaire qu'il en a fait un roman. Alors, on a deux personnages principaux qui sont un comédien et donc cette comédienne surnommée Le Papillon. Et puis, on a toute la troupe autour et ce ne sont que des personnages réels. Tous ont existé. Hein, et puis, il va y avoir beaucoup de choses qui vont se passer autour de ça. On a notamment un poète célèbre en Estonie qu'on appelle le poète fou, hein, qui va, dans le projet de la construction de ce théâtre, va donner son manteau, parce qu'il n'a pas grand-chose d'autre à donner, le pauvre, et pour que ce projet aboutisse. Et puis ce projet, ben, il va connaître... hélas, beaucoup d'aléas, parce que là, on est à la veille de la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale va éclater. Le théâtre va plutôt servir d'hôpital ou de mouroir pour nombre de blessés. Et puis, on a déjà une note fantastique qui apparaît dans ce roman, puisqu'il y a... Il y a tous ces morts autour de l'hôpital et puis il y a un chien gris qui tourne autour de l'hôpital.
Hein ? Un chien gris aux yeux jaunes.
Un chien gris aux yeux jaunes qui tourne et plus ça va, plus il engraisse. Et il devient gras comme un cochon, si je puis dire. Ben, c'est bien sûr, c'est la mort qui tourne autour de l'hôpital et son objectif principal, c'est le papillon. Il veut absolument se saisir du papillon. Voilà. Donc vraiment, on apprend des choses sur l'histoire de l'Estonie. Et puis on plonge dans le monde du théâtre. Et puis c'est une façon de raconter qui est assez extraordinaire. Et puis là, Les Groseilles de novembre, et, ben là, on plonge dans un Moyen-Âge plus ou moins réinventé, dans une époque médiévale plus ou moins réinventée. On est dans des campagnes estoniennes perdus, dans des villages perdus. Et le sous-titre est assez intéressant, parce que Les Groseilles de novembre chronique de quelques détraquements dans la contrée des crates. Alors, les crates, on voit apparaître des crates déjà dans Le Papillon. Hein, c'est quoi ? Bah, ce sont des espèces de créatures fantastiques fabriquées de briques et de brocs et qui vont rendre beaucoup de services à la propriétaire. Ils s'envolent, ils traversent les murs, ils vont surtout voler, parce que on est dans un village et la principale occupation des habitants, c'est se voler les uns les autres. Et puis surtout d'enterrer les trésors pour que personne d'autre les vole. Pas s'en servir, ça ce serait trop suspect. Et puis bah, les crates, le problème, c'est que pour faire vivre un crate, c'est pas tout de le fabriquer, il faut lui donner une âme. Et là, il faut vendre, il faut passer un contrat avec le diable. Alors il appelle pas le diable, j'ai plus en tête le nom, c'est le diable. Et... il faut signer avec son sang. D'où le titre Les Groseilles de novembre. Parce que il y a le sage du village qui est très malin et qui, lui, a récupéré cueille les groseilles, les récupère. Et puis, quand on veut signer un contrat avec le diable, on ne signe pas avec son sang. On prend quelques groseilles et puis hop, au moment de signer, on écrase la groseille et on signe avec du jus de groseille. Et le diable se fera rouler dans la farine, si je puis dire. Alors, c'est réjouissant, hein, c'est bourré de fantastique. Il faut renoncer un peu à nos repères habituels. Et le diable est très bête. Le diable est très bête, le sage du village le roule dans la farine à tout moment. On va voir la peste aussi qui va essayer de s'infiltrer. Alors, la peste qui va apparaître sous l'aspect d'une belle femme, mais là c'est pareil, grâce au sage du village, bah, la peste, elle va repartir bredouille. Elle prendra pas de victimes dans ces villages-là. On a toute une galerie de personnages. On a un domestique un peu demeuré au début du roman. Il est très malade parce qu'il était au château. Alors, oui, un château, c'est les Allemands. Alors, ils sont au nid, les Allemands, hein, les nobles allemands qui sont là-bas. Il a mangé un truc au château, il a trouvé ça délicieux, mais alors il est malade après comme un chien. Il a mangé du savon. Et que voulez-vous, hein. Et puis il est très amoureux en plus. Bon, alors je vous révèle pas tout, c'est à découvrir. Et puis l'homme qui savait la langue des serpents. Alors là, on va dans une époque encore plus imaginaire. On va rencontrer des hommes préhistoriques, les derniers hommes préhistoriques qui vivent encore et qui élèvent des poux. On va rencontrer une femme qui a épousé un ours. Hein, ça pose quelques problèmes d'ailleurs, parce que plus ça va, plus l'ours devient ours. Et donc, c'est pas extraordinaire. On va avoir des guerres intestines, des luttes intestines entre les villageois. Et puis, pareil, on voit bien qu'il y a le fantôme de l'Allemagne derrière, hein, des occupants qu'il y a toujours eu en Estonie. Et puis, il y avait cet homme qui savait la langue des serpents, parce que son grand ami, cet homme qui sait la langue des serpents, c'est une vipère royale, qui parle comme les humains, et chez laquelle il va manger, il est invité régulièrement, et puis il va se passer un drame avec cette vipère. Voilà. Hein, je me tourne vers François.
C'est une épopée.
C'est une épopée, on y plonge, faut accepter d'y plonger, de renoncer à nos repères habituels, et c'est absolument extraordinaire.
C'est un livre mythique qui n'est pas sans rappeler aussi le Kalevipoeg, l'épopée estonienne, qui est avec un héros qui est très différent du Kalevala, l'épopée finnoise. C'est que le Kalevala, le héros, est un guerrier positif qui combat la sorcière, les serpents et tout ça. Alors que dans Kivirak, justement, c'est déjà la langue des serpents, donc c'est différent. Et il y a aussi beaucoup de dérision et de... Même un peu de cruauté, mais il y a la dérision dans l'épopée estonienne qu'il n'y a pas en Finlande.
Voilà. Et puis, on a quand même dire aussi, on est du côté de la fable, très écologique, parce que c'est aussi l'histoire d'un monde qui disparaît, oui. Notamment la forêt, les animaux de la forêt, la langue des serpents, où elle permettait de chasser, entre guillemets, mais plutôt sans convaincre les animaux
à s'offrir
pour nourrir
les
humains.
Les hommes, ouais, exactement.
Voilà, ce qui est quand même assez extraordinaire. Voilà, on avait prévu de parler de plein de choses, on va juste les signaler, du coup on en parlera une prochaine fois. Tu nous avais amené un livre consacré à
Pierre Soulages, Trois Lumières,
hein, qui est publié chez Verdier Poche. Donc, on en reparlera, parce qu'il y a... Il faudrait peut-être aller d'ailleurs en parler dans la salle réaménagée consacrée à Pierre Soulages au musée Fabre. Et puis moi, j'avais éventuellement prévu de vous parler d'une bande dessinée chinoise, En loin une montagne, de Chong Guinier. On en avait parlé un petit peu avec... Magali Briossec de la Géosphère, mais je vous en parlerai une autre fois, c'est magnifique. Voilà, merci Françoise, merci François pour ce bazar d'automne pré-festif, on va dire. Merci Rongemaille à la technique. Bonne lecture à tous et à très bientôt. Lecture par tous.
C'est un dialogue.
L'émission qui vous parle des livres.
C'est une gymnastique intellectuelle extrêmement bénéfique pour le cerveau.
Des métiers du livre, des lecteurs.
Les jeunes n'ont pas perdu le goût de la lecture.
Et de leur lecture.